Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Tout tourne autour de vous. Vous entendez des sifflements dans votre tête. Vertiges et sensations vertigineuses sont des troubles fréquents qui touchent près de 30% de la population générale et plus de 50% des personnes âgées. Ils peuvent être invalidants et de nombreux patients ne sont pas pris en charge correctement dans ce domaine. Alors comment justement se soigner? Quels sont les traitements disponibles? Les moyens de prévention? C'est ce qu'on va voir avec mon invité, le docteur Michel Dibe, neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, membre de la Société française de neurologie. Il vient de publier « Vertige ou acouphène, distinguer pour agir ». C'est un livre qui paraît aux éditions Josette Lyon. Si vous avez envie de lui poser des questions ou d'apporter un témoignage, un téléphone, le 33 1 84 22 75 75 et bien sûr les réseaux sociaux pour nous laisser des messages. Dans cette émission, on aura également au téléphone le professeur Youssoupha Maïga, qui est chef du service de neurologie au CHU Gabriel Touré à Bamako, au Mali. Docteur Michel Dibe, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans Priorité Santé pour parler de ce sujet beaucoup plus fréquent que ce qu'on imagine, hein, cette question des vertiges. Un vertige, c'est quoi exactement? Et ce qui est important, d'après ce que j'ai compris, c'est de faire la différence entre le vrai vertige, entre guillemets, et la sensation vertigineuse.
Tout à fait, en fait. Un vertige, c'est avoir l'impression que les choses tournent autour de soi ou qu'on est instable. Et c'est vrai que le vertige, c'est un symptôme très fréquent. On estime à peu près 10 à 20% de la population, même plus, présentant des vertiges. Alors, le vrai problème qu'on a en pratique, d'abord, indépendamment du traitement qui est parfois difficile, c'est aussi pour faire le diagnostic. Parce que dans les mots que les patients portent sur leur problème, en arrivant à la consultation, il y a une confusion majeure. On va appeler les sensations vertigineuses vertige. En fait, ils utilisent plus le mot vertige.
Tout le monde dit vertige. J'ai eu des vertiges.
En sachant que en médecine, le vertige, il est réservé pour ce qu'on appelle le vrai vertige, où c'est assez simple, il faut que les choses tournent autour de soi. Si vous avez l'impression d'être sur un bateau, c'est pas un vrai vertige,
c'est une sensation vertigineuse. Par contre, si ça tourne complètement autour de soi,
autour de soi, comme si on est dans un manège, là, c'est le vertige vrai.
Pourquoi cela fait si peur? Pourquoi est-ce aussi angoissant? Parce qu'on se dit, oh là là, ça touche le cerveau. C'est ça l'inquiétude? C'est quoi?
C'est ça aussi, mais c'est aussi parce que il y a une forme d'instabilité. Mm-hmm. Vous avez l'impression de ne pas être stable. Et vous avez peur surtout.
Et peur de tomber, peut-être?
Peur de tomber, peur que ça se répète. Parce que comme ça arrive souvent brutalement, vous avez peur que ça vous arrive à un moment donné et vous tombez. D'ailleurs, il y en a qui tombent.
Je trouve très intéressant dans votre livre, dès le début, vous consacrez toute une partie à comment préparer une consultation chez un neurologue. C'est-à-dire qu'au moment où on sent ces vertiges et avant d'aller consulter, vous dites, mais il y a plein de questions auxquelles il faut répondre pour pouvoir après répondre aux questions du médecin. Alors, c'est quoi justement ces questions cette préparation de la consultation?
Parce que ce qu'on a besoin pour établir le diagnostic, on a besoin d'abord de décrire bien le vertige. La première chose que je demande aux gens, décrivez comment est-ce que les choses tournent pas, vous êtes instable. Deuxièmement, combien de temps ça dure? Un vrai vertige, souvent, c'est un vertige bref, ça va durer quelques secondes à quelques minutes. À quelle occasion c'est déclenché? La présence d'antécédents dans le passé, est-ce qu'on a déjà connu un vertige? Ça, il a une valeur majeur, parce que quand votre oreille interne commence à dysfonctionner, c'est malheureusement pour toute la vie. Il peut vous donner des signaux 10 ans après, 10 ans avant, 20 ans après. Donc, on a besoin d'antécédents, on a besoin des facteurs qui déclenchent, des facteurs qui aggravent ce vertige. Est-ce qu'on a besoin de savoir quels médicaments vous prenez? Certains médicaments peuvent donner aussi ce type de vertige. Donc, tous ces éléments-là qui sont indispensables pour faire le diagnostic, qui restent aujourd'hui un diagnostic clinique. C'est qu'on le fait en parlant avec les gens.
Et c'est important de préparer cette consultation parce que ce que vous avez peut-être constaté, c'est que vos patients sont un peu perdus devant l'avalanche de questions d'un seul coup que vous leur posez.
Ça s'applique à toute plainte en médecine, pas seulement au vertige. Il faut toujours préparer ce que les gens ne font pas. Toujours.
Parce qu'en fait, ils vous disent, oh là là, c'est fréquent, mais ils sont incapables de vous dire à quelle fréquence. Donc en fait, ça veut vraiment dire qu'il faut noter.
Complètement. D'ailleurs, comme les gens qui vous appellent pour avoir un rendez-vous, quand vous leur dites quand est-ce que vous voulez un rendez-vous, ils disent on va regarder l'agenda. Donc, il vaut mieux préparer déjà les symptômes avant de poser la question.
Alors, je vous propose d'écouter le témoignage de Laure, qui a 47 ans. Elle souffre de vertige depuis 2010. Elle a consulté un grand nombre de spécialistes. Et c'est finalement un neurologue, je crois que c'est vous en l'occurrence, qui a trouvé la solution à son problème. Des propos recueillis par Igor Strauss.
Je me suis réveillée un matin, il y a 4 ans, en n'entendant plus du tout de l'oreille gauche, sans qu'il y ait eu de problème auparavant. J'ai jamais eu d'otite ni de problème d'oreille. Et je me suis réveillée totalement sourde. Et j'ai passé la journée comme ça parce que je pensais que c'était pas très grave. Je pensais que c'était un problème de bouchon ou quelque chose comme ça. Et en fait, le soir, j'ai commencé à me sentir très mal, à vomir, à plus pouvoir marcher. Je suis allée chez le médecin et à partir de là... Il y a eu plusieurs hypothèses. On m'a donné surtout des grosses doses de corticoïdes pour essayer de retrouver en fait l'audition. Et j'ai pas retrouvé l'audition. J'ai perdu 100% de l'oreille gauche. Alors ça a été très long à diagnostiquer. Il a fallu d'abord éliminer tout ce qui était grave, c'est-à-dire tumeur au cerveau, AVC, neurinome, etc. Donc j'ai passé une semaine où on m'a fait beaucoup d'examens et une semaine pendant laquelle j'étais vraiment très mal parce qu'en fait ça a déclenché des vertiges énormes et très inquiète. J'ai été suivie ensuite à Paris pendant 3 ans à la Riboisière. Alors on n'a pas vu ce que j'avais eu parce que il y a pas de traces sur l'IRM. L'hypothèse, c'est que j'ai eu un virus qui a en fait abîmé le nerf vestibulaire et le nerf auditif, qui fait que j'ai perdu complètement donc l'audition de l'oreille gauche et une partie de l'équilibre en fait. Et au bout de 3 ans de vertige plus ou moins contrôlé avec des médicaments comme du bétacerg, du tanganyl, etc., de la rééducation, enfin pas mal de choses, j'ai subi 2 injections de gentamicine pour neutraliser complètement en fait le nerf vestibulaire, pour qu'il n'y ait plus de problème de vertige, qu'ensuite ce soit l'oreille droite qui s'occupe de tout, en fait. Ça a marché pendant 1 an. Et au bout d'1 an, j'ai eu de nouveau des crises de vertige. Enfin, pas des crises de vertige, des sensations de vertige, ce qui est un peu différent.
Alors, quelle est la différence, justement? Et puis, expliquez-nous ce que vous ressentez à ce moment-là.
Pour moi, il y a 2 types de vertiges vraiment très différents. Les vertiges que j'ai eus au tout début étaient des vertiges énormes. C'est-à-dire que si je tournais la tête dans le lit ou que je fermais les yeux, j'avais l'impression d'être aspirée dans un énorme trou, de tomber vraiment au fond d'un gouffre. Donc, il fallait que je me redresse, que je rouvre les yeux. C'était vraiment une situation insupportable. Et par la suite, j'ai eu des vertiges qui étaient dus à mes positions, mais qui étaient en fait plutôt comme si j'étais un peu saoule tout le temps. Donc c'est moins insupportable, mais c'est très handicapant quand même. Et c'est des vertiges qui rendent en fait la vie un peu compliquée, qui font qu'on est un peu tout le temps fatigué, qu'on n'a pas envie de faire les choses parce qu'on est quand même un peu mal, on a mal au cœur, on n'est pas bien.
Mais du coup, est-ce que ça vous a gêné dans vos relations avec les autres, par exemple ?
Alors la surdité, oui, bien sûr. Mes enfants, mon mari, savent que maintenant, ils doivent me parler d'un côté et pas de l'autre, que quand on marche dans la rue, je suis toujours à leur gauche. C'est handicapant. Quand je traverse la rue et que j'ai des vertiges, j'ai du mal à tourner la tête parce que ça me donne des vertiges. Donc, je tourne moins la tête que quelqu'un d'autre. Par ailleurs, étant sourde du côté gauche, je n'entends pas les voitures qui arrivent. Donc, c'est vrai que pour moi, aller dans la rue quand j'ai ces vertiges, c'est dangereux. Je prends un risque plus grand que quelqu'un d'autre.
Alors, vous avez fait de la rééducation. En quoi ça consistait et est-ce que ça vous a aidé ?
Alors j'ai fait beaucoup de rééducation avec différentes personnes. Ça consistait en plusieurs choses, c'est les fauteuils pivotants, les matelas de mousse sur lesquels on marche, les projections sur le mur qui tourne, pas mal de choses comme ça. Moi, en ce qui me concerne, ça ne m'a strictement rien fait. Alors après, je suis allée voir en fait un neurologue parce qu'il y a eu à un moment une présomption de sclérose en plaques et fort heureusement, c'était pas du tout ça. Il m'a donné des traitements différents et assez rapidement, en l'espace de peut-être un mois et demi, mes vertiges ont disparu. Ils n'ont pas disparu totalement en fait, ils se sont énormément atténués parce qu'en fait, quand je bouge la tête, j'ai toujours des vertiges. Mais c'est pas du tout handicapant, je suis comme ça, voilà, j'ai plus qu'une oreille, j'ai des vertiges, mais je peux vivre bien.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons des vertiges avec le docteur Michel Dib. Intéressant ce témoignage de Laure sur plein de plans. D'abord, simplement pour dire qu'une oreille qui dysfonctionne, finalement, ça compromet l'équilibre.
Tout à fait, parce que l'oreille, elle a deux fonctions. La première est
d'écouter.
La deuxième, c'est l'équilibre. Donc, quand vous montez sur un bateau, vous avez le bateau qui bouge. Donc, vous avez une partie qui s'appelle le vestibule de l'oreille interne qui va donner des signaux à votre cerveau comme quoi ça bouge. Le cerveau, en l'occurrence, ordonne aux jambes de s'adapter pour ne pas tomber. Donc, l'oreille va lui servir en fonction d'alarme pour lui dire dans quelle position il est. Si vous voulez, l'histoire de l'or, en fait, c'est une des histoires pour laquelle c'est l'objectif de mon livre. Moi, je ne voulais pas rajouter un livre de plus sur les vertiges. Le vertige, c'est un grand classique en médecine. Les sensations vertigineuses aussi. Mais il y a plusieurs, je veux dire, il y a beaucoup de messages dans l'histoire de l'or.
D'abord, l'errance thérapeutique, le temps qu'on met finalement à la fois à diagnostiquer, à trouver le bon traitement, non? C'est pas
tout
ça?
Tout à fait. Mmh. C'est encore une fois, c'est un des fonds des raisons de ce livre-là. Parce que l'or a commencé, parce qu'on appelle, c'est assez simple, le vrai vertige. Les choses tournent autour de soi. C'est une atteinte directe de l'oreille interne qu'on a vu qu'il a été atteinte par un virus ou quelconque. En tout cas, il a eu ce qu'on appelle une surdité brusque. Donc, l'atteinte de l'oreille interne a causé un vrai vertige. Bon. Le problème, c'est que quand ce vrai vertige, elle est devenue chronique, comme elle explique bien l'or, il dit à la fin, c'est devenu une espèce, pas assez, et c'est aussi aigu qu'avant, mais c'est aussi gênant. Je suis déséquilibré. Donc, c'est ça où la médecine n'arrive pas aujourd'hui à bien diagnostiquer. En fait, on est passé du vertige.
La médecine n'arrive pas à bien diagnostiquer ou les médecins n'arrivent pas à bien diagnostiquer.
La médecine, pas les médecins, parce qu'on l'a pas enseigné aux médecins.
D'accord.
Les médecins sont excellents. Quand on leur enseigne quelque chose, ils le retiennent bien. Mais si la médecine n'a pas trouvé ça, c'est difficile de après c'est une histoire d'expérience. Chacun l'or a vu les plus grands spécialistes de ORL à Paris. Il a vu les sommets pendant 3 ans. Il n'a pas été soigné.
Mal soigné.
Vous voyez, donc c'est vraiment, c'est pas ça. Mais
c'est intéressant, c'est que c'est plus l'ORL là qui peut faire ça, c'est plutôt le neurologue comme vous.
Mais l'ORL peut le faire, mais il faut comprendre que le vertige ne devient plus vrai. À un moment donné, ça devient des sensations vertigineuses. Regardez l'histoire de la rééducation. Pourquoi on fait des rééducations
Elle a dit que ça marchait pas pour elle.
La rééducation, c'est quoi? C'est faire tourner la tête de façon aiguë pour déplacer. On déplace quoi? On déplace des cristaux qui sont à l'intérieur de l'oreille interne. Mais l'or n'a pas de cristaux. L'or, il a eu son oreille interne, entre guillemets, atteinte, tuée par le virus. Donc, qu'est-ce que vous allez déplacer? Rien. L'or, il lui faut une rééducation de l'équilibre, comme quelqu'un qui a perdu un peu son équilibre. Mais il ne veut pas tourner la tête, comme il a eu pendant des mois. Si vous voulez, c'est inutile et c'est dénué de sens. Si vous voulez, donc le problème, c'est ça, c'est qu'il faut choisir la bonne indication pour la bonne maladie.
Et une fois que le diagnostic est fait, justement, il y a des traitements. L'histoire de l'or le montre, on arrive à...
Il y a des traitements qu'il a eu aussi, elle. On n'a pas énormément de traitements. On a 2 antivertigineux. Dans les cas sévères, il faut les associer ensemble. C'est aussi simple que ça. Le problème est là aussi...
Pardon, je vous interromps sur le traitement avant que vous finissiez. Et c'est des traitements qu'on prend à vie ou pour un temps donné, après ça se rééquilibre?
Mais justement, c'est ça le problème. Parce que dans son histoire, quand je lui ai demandé de préparer les questions pour moi, il m'a dit qu'il avait pris ça pendant un mois. Dans son cas, comme l'histoire est, on va simplifier, un peu sévère, il lui fait pas un mois, il faut 2-3 ans. Donc, si vous voulez, c'est la durée de traitement qui n'est pas aussi bien connue par les médecins et par la médecine. Il faut prévenir les gens. Quand on voit les gens avec un problème de l'oreille interne, il faut leur dire souvent... C'est une longue histoire. Ça peut être une longue histoire. On peut avoir besoin de traitement pendant des années. Donc, le même traitement, mais pendant des années, ça change tout. Quand vous avez des sensations vertigineuses, il faut rajouter des médicaments que vous n'avez pas en cas de vrai vertige. Donc, en fait, la deuxième phase qu'il a eue après le vrai vertige, qui était les sensations vertigineuses, les vertiges allégés, mais qui sont plus chroniques, là, il faut rajouter d'autres choses, d'autres traitements qui sont souvent des myorelaxants, des antidépresseurs à faible dose, des médicaments qu'on ne donne pas dans la phase de vertige vrai au début.
C'est savoir associer ces deux-là qui est important. On reviendra sur les causes de ces différents vertiges. Les auditeurs sont nombreux à appeler pour vous poser des questions. On a Oubeda qui nous appelle de Lomé au Togo. Oubeda, bonjour.
Bonjour Claire.
On vous écoute Oubeda. Parlez bien fort près du téléphone parce que j'entends une petite voix.
Oui, bonjour docteur, bonjour Claire.
Bonjour.
Alors, moi j'ai eu un accident en mi-novembre, un accident de voiture, le véhicule s'est retourné. Et depuis, j'ai des vertiges lorsque je m'allonge en position couchée ou que je rejette la tête en arrière. J'ai pu regarder quelqu'un en hauteur. Donc, bon, j'ai eu ma ceinture qui dure 10 secondes en général et ça passe tout de suite après. Donc, au début, j'ai consulté un neurologue qui m'a prescrit Prendanil. J'ai pris une dizaine de jours. Voilà, depuis, disons que la sensation a diminué, mais elle est toujours présente. Et je ne sais pas, à midi, à gauche, à droite, ça va passer avec le temps. Mais voilà, ça fait 3 mois et j'ai toujours cette sensation.
Et vous aimeriez bien savoir quoi faire. Alors, docteur Michel Lib, c'est peut-être compliqué à distance de donner quelques conseils.
Non, ce n'est pas du tout compliqué. Un vertige qui arrive quand on tourne la tête, quand on est allongé, ou qui dure quelques secondes, ça ne peut être qu'un vertige d'origine de l'oreille interne. La question, si vous voulez, juste à vous poser, est-ce que donc tout a commencé après l'accident, c'est ça ?
L'accident, oui.
Et l'accident, vous avez un traumatisme crânien, on a touché la tête, c'est ça ?
J'ai eu quelques blessures sur la tête, mais le scanner était, on m'a dit, négatif, tout était normal au scanner. Donc,
ce qui n'est pas très classique dans l'histoire, vous n'avez jamais eu vertige, jamais avant cet accident, jamais, même pas très peu.
Non, jamais, sauf lorsque je suis en hauteur comme tout le monde. Hein.
D'accord.
Parce que c'est sur le toit de l'immeuble que je regarde en bas. Je sais
bon, l'histoire est relativement claire, si vous voulez, vous avez eu clair. donc vous avez eu un accident qui a traumatisé votre oreille interne. Cette oreille interne vous envoie des signaux de temps en temps. Donc votre traitement, si ces vertiges-là sont fréquents, pendant les périodes où il y en a beaucoup...
Et c'est quoi fréquent ? Pardon de vous interrompre.
Ben, fréquent, si vous voulez, c'est une notion relative. Hein. Vous savez, si vous avez des grandes responsabilités, et puis ça vous arrive une fois par mois, c'est fréquent, parce que ça vous perturbe. Après, ça dépend 2-3 fois par mois ou 2-3 fois par semaine. Il n'y a pas assez, un peu relatif.
Donc, si c'est fréquent...
Aussi, pour elle, c'est gênant, c'est difficile à gérer, il y a un risque de tomber. Ben, il y a un traitement avec ce qu'on a dit, les antivertigineux, de l'oreille interne, hein, on est vraiment dans le vertige aigu de l'oreille interne, son traitement, c'est 2 antivertigineux qui existent au niveau mondial, il faut les prendre pendant longtemps. Dans son cas, il faut prendre pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, jusqu'à obtenir 3 mois ou 3 à 6 mois sans vertige du tout. Et là, on peut arrêter éventuellement si jamais ça reprend.
Et pour ça, on va consulter qui ? Un ORL, un neurologue comme vous ?
Moi, ce que je dis dans le livre, moi, je suis mal placé pour parler de vertige. Le vertige, c'est une histoire d'ORL. Moi, je viens rajouter juste la dimension sensation vertigineuse qui dépend plus des ORL. Parce que j'ai vu depuis des années, les ORL m'envoyaient des patients. Je ne comprenais pas pourquoi, mais en fait, c'est des patients que... Parce que j'avais suivi plein de leurs patients qui n'ont pas été améliorés par le traitement ORL dans la phase chronique après le vertige. Dans son cas, ça peut être un ORL, mais ça peut être un neurologue aussi.
Ça, c'est l'un ou l'autre.
Mais il faut leur dire, il faut qu'il arrive avec son ordonnance en disant, je veux des antivertigineux, 2 antivertigineux en même temps et pendant 1 an. Parce que je n'ai pas sûr
C'est ce qu'a dit le docteur dans Priorité Santé sur RFI. Bon courage, Oubeda, et j'espère que vous allez pouvoir résoudre votre problème. On a Rachid qui nous appelle de Lomé au Togo. Rachid, bonjour.
Bonjour, comment vous allez ?
Très bien, et vous, on vous écoute.
Il m'arrive des fois d'avoir le vertige en marchant, des fois en étant debout dans mes activités. Je suis obligé de m'arrêter 30 à 40 secondes avant de reprendre. Je vois un peu flou, sombre, noir, c'est comme je vais tomber. Et des fois aussi, quand il fait chaud, j'entends des bourdonnements dans l'oreille, des sifflements. Et donc, après quelques minutes, et puis ça passe. Et je ne mange pas bien aussi. Donc, et en plus, des fois, je m'énerve rapidement.
Alors, docteur Michel Dib, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pouvez répondre à
Rachid, dessus. Est-ce que vous avez les choses qui tournent autour de vous, donc quand vous avez ça ?
Non. Seulement, je vois sombre, et puis c'est comme... Et quelque chose me couvre les yeux, quoi.
Vous avez vérifié que votre tension ne baisse pas, ou que vous n'avez pas la glycémie qui baisse ?
Ma tension, c'est 37, ouais.
Et puis, quand vous êtes allongé, ça s'améliore ou quand vous êtes assis ?
Alors, pour répondre à la question, Rachid, vous restez avec nous, docteur Michel Dib également. On se retrouve dans 3 minutes, juste après les informations, toujours pour parler de ces vertiges.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons des vertiges avec le docteur Michel Dib, qui est neurologue à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il vient de publier « Vertiges ou acouphènes, distinguer pour agir ». C'est un livre qui paraît aux éditions Josette Lyon. Si vous avez envie de lui poser des questions ou d'apporter un témoignage, un téléphone, le 33 1 84 22 75 75 et les réseaux sociaux pour nous laisser des messages. Et juste avant les informations, on était en ligne avec Rachid de Loméo Togo, qui est toujours d'ailleurs au téléphone avec nous. Il nous dit qu'il a des vertiges quand il est en activité, quand justement il marche, et que ça, il nous a pas vraiment dit que ça tournait autour de lui, mais une impression voilà. En tout cas
donc
de
ça,
vertige.
C'est, voilà, le message qu'on va dire d'abord, c'est pas un vertige, ce qu'il a Rachid, donc c'est sensation vertigineuse ou malaise. Deux, c'est pas l'oreille interne, probablement. C'est, il faut chercher côté malaise, baisse de tension, glycémie, baisse de sucre. Et si c'est pas ça, bah, ça peut être éventuellement aussi une atteinte, mais plutôt chronique de l'oreille. Mais en tout cas, c'est pas une atteinte aiguë, c'est pas un virus au niveau de l'oreille.
Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment là, de nouveau, de faire la différence entre le vertige et la sensation
exactement.
Vertigineuse.
Là, du coup, il se retrouve pas chez l'ORL. Oui. Il a rien à faire chez l'ORL, mais plutôt chez le médecin généraliste ou la médecine interne.
Ou la médecine interne. Merci beaucoup, Rachid, et bon courage à vous. On a au téléphone le professeur Youssoufa Maïga, qui est chef du service de neurologie au CHU Gabriel Touré à Bamako, au Mali, secrétaire général de la Ligue malienne contre l'épilepsie. Professeur Youssoufa Maïga, bonjour.
Bonjour Claire.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct dans Priorité Santé. Tout d'abord, bravo parce que je crois que vous venez d'être nommé professeur, d'être agrégé, c'est bien ça ?
Merci, oui, merci.
Est-ce que les vertiges sont un motif fréquent de consultation au Mali ?
Oui, un motif fréquent. Nous pensons que ça représente environ 15% à 20% de nos motifs de consultation en neurologie générale.
Et quelles sont les causes principales de ces vertiges et des sensations d'ailleurs vertigineuses? Est-ce qu'il y en a des causes qui sont un peu particulières au Mali ou à l'Afrique?
Non, je pense que ce qui est intéressant, je vais rebondir un peu sur l'appel du patient du Togo. C'est, en fait, nous voyons les patients et notre rôle ici, c'est de, comme mon collègue l'a dit, de déterminer les vrais vertiges des faux vertiges. Et en tant que neurologue, de se dire est-ce qu'il s'agit d'une urgence vitale ou s'il s'agit de vertiges classiques relevant de nos collègues de l'ORL. Donc, les patients se présentent effectivement comme un peu partout ailleurs. C'est des patients qui ont soit des vertiges, soit des sensations vertigineuses. Et donc, notre rôle, c'est d'abord faire la part des choses, rassurer les patients qui présentent des vertiges périphériques, pas graves, qu'on peut gérer de façon très simple et distinguer les patients qui mériteraient quand même d'être hospitalisés dans un service de neurologie ou en ORL et qui ont besoin quand même de soins.
Docteur Michel Dib, une réaction par rapport à ça. La plupart du temps, ces vertiges, en fait, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on cherche tout de suite à éliminer comme maladie grave quand il y a des vertiges ?
Ce qu'on cherche, effectivement, je suis d'accord avec mon collègue, c'est pas grave. Ce qu'on cherche, mais c'est des cas extrêmement rares, de voir est-ce qu'il n'y a pas une atteinte neurologique, ce que j'appelle le vertige central. Vous avez quatre grandes catégories. Le vertige aigu, c'est l'oreille interne. Les sensations vertigineuses, c'est parfois la céphalée de tension, c'est des tensions musculaires autour de la tête. Vous avez les malaises, donc là, il faut éliminer tout ce qui est cardiaque dans les malaises. Ça peut être grave. Malaise cardiaque ou malaise simple, une forme de syncope ou de baisse de tension ou de baisse de sucre. Et le quatrième catégorie, ce qu'on appelle le vertige central. Là, c'est pas l'oreille interne, mais ce sont les structures qui lient l'oreille interne au cerveau. Parce que l'oreille interne, pour aider l'équilibre, il va envoyer des messages au cerveau. Et donc, ces messages sont une forme d'autoroute qui va de l'oreille au cerveau. Cette autoroute, parfois, elle peut être atteinte. Donc, c'est là, parfois, ça peut être grave, il faut engager d'autres traitements. C'est des cas très, très rare.
Très
exceptionnel, je dirais même, pour que les gens ne s'arrêtent pas là-dessus, des gens comme une sclérose en plaques, ou parfois, vous avez même des épilepsies partielles, une forme d'épilepsie, mais on ne perd pas connaissance complètement, c'est l'épilepsie que nous connaissons, on appelle l'épilepsie partielle, qui peuvent donner aussi des vertiges, on appelle vertige central. Vous avez parfois des très, très, très rares tumeurs de l'oreille interne, qu'on appelle les norinomes, qui donne des vertiges, mais en même temps, une perte d'audition. Donc ça, c'est relativement simple à diagnostiquer, mais extrêmement rare.
Relativement simple, quoi, avec un IRM, c'est ça? C'est quoi?
Avec les symptômes, déjà, on sait très bien que quand le patient perd progressivement l'audition, c'est pas dans le cas de l'OR, il a perdu de façon aiguë. Dans le cas d'une tumeur de neurinome, on perd progressivement l'audition, et donc en même temps qu'on a des vertiges, on a des acouphènes, donc c'est relativement simple à diagnostiquer. C'est des tumeurs bénignes, mais qui conduisent à terme à perdre l'audition d'un côté.
Professeur Youssoufa Maïga, quelles sont les difficultés de prise en charge auxquelles vous êtes confronté, et dans cette question, j'ai envie de vous demander, est-ce que les médicaments en cas de vertige sont disponibles? Quand on a eu Oubeda, au début de l'émission de Lomé au Togo, le docteur Michel Dib lui a conseillé un traitement contre les vertiges. Est-ce que ce traitement est disponible au Mali?
Oui, je vais d'abord dire que, bon, il y a le patient et puis il y a l'environnement du patient. Nous, c'est vrai que quand il s'agit de vertiges inaugurales, il y a l'environnement familial, il y a le vertige, c'est très stressant, comme vous l'avez dit au début de l'émission. Donc, il y a cet aspect, s'il y a un aspect africain qu'il faut noter, c'est cet aspect. C'est le patient vertigineux, quand il s'agit de vertiges inaugurales, toute la famille autour, il faut rassurer tout un environnement. Ça, c'est l'aspect africain de la chose qu'il faut gérer rapidement. Et quand il s'agit d'un vertigineux connu, comme mon collègue l'a dit, et qu'il s'agit des récidives d'épisodes vertigineux, c'est encore beaucoup plus simple parce que le malade, il connaît son histoire, il connaît ses vertiges, et là, c'est beaucoup plus facile à gérer. Et auquel cas, pour le traitement, nous travaillons, comme mon collègue l'a dit, avec les ORL, le vertige, dans la très grande majorité des cas, reste quelque chose de bénin. Et donc, les patients sont soit pris rapidement en charge en neurologie, et soit en ORL, et les antivertigineux les plus simples sont accessibles effectivement dans les grandes villes africaines.
Ils sont disponibles et à un coût pas trop élevé?
Un coût relativement élevé, une molécule, je vais m'autoriser à dire un nom de spécialité, le tanganyl, qui est quand même couramment utilisé dans les vertiges classiques. Il coûte autour de 10 euros la boîte au Mali, ce qui est relativement cher, mais bon, c'est accessible.
C'est relativement accessible. Quelles sont les autres difficultés de prise en charge auxquelles vous êtes confronté?
Les autres difficultés de prise en charge, c'est l'itinéraire du patient. Donc le patient, comme pour toutes les pathologies chroniques, le patient il fait son tour, et le médecin et surtout le médecin spécialiste n'est pas le premier consulté, donc le patient il arrive souvent avec un parcours assez sinueux, donc il faut le prendre en charge. Et puis bon, on n'a pas un plateau d'ORL outillé dans tous nos centres, mais dans la grande majorité des cas, comme mon collègue l'a dit, c'est quand même des pathologies faciles à gérer dans la grande majorité des cas. Donc les molécules sont disponibles, et puis oui, les malades sont pris en charge.
Merci beaucoup, professeur Youssoufa Maïga. Je rappelle que vous êtes chef du service de neurologie au CHU Gabriel Touré à Bamako, au Mali. Juste une réaction au docteur Michel Dib. On voit bien que c'est un peu la même chose que chez nous. Les patients voient quand même beaucoup de médecins avant qu'on réussisse une bonne prise en charge.
C'est le point central dans ce thème-là, c'est qu'il y a toujours, il y a beaucoup d'errances de diagnostic. Et puis, ce qui est amusant aussi, vous qui faites l'international, qu'il y a des problèmes de terminologie. C'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, un malaise. En fait, en Afrique du Nord, on va l'appeler plutôt vertige, quoi. Les malaises, je vois beaucoup de patients âgés, notamment de femmes entre 60 et 70 ans avec des dépressions chroniques. Et pour exprimer leur malaise de dépression, ils vont utiliser le mot vertige. Et puis, il y a toujours un mélange entre mot tête et vertige. Donc, il y a des problèmes culturels et terminologiques qui sont très importants.
On met beaucoup de choses là-dessous.
Et beaucoup d'errances de diagnostic. C'est ça. À cause de parcours de patients qui est très compliqué.
Et on met beaucoup de choses sous ce terme. On a Justin qui nous appelle de Porto Novo au Bénin. Justin, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Justin.
Voilà, tout a commencé chez moi par une intervention chirurgicale pour me guérir d'une otospongiose sévère. Donc là, c'est l'ossification des l'effacement des osselets. Donc il fallait les enlever, les remplacer, donc par une prothèse. La première intervention n'a pas fonctionné parce qu'on m'a dit après que la prothèse s'est déplacée. Donc il a fallu une seconde intervention 2 mois plus tard. Cette fois-ci, ça a marché, ça a fonctionné. Mais je m'en suis donc tiré avec un vertige qui a été donc corrigé par du Bastarel. Donc j'ai été donc mis sous Bastarel. Mais depuis donc là, ce jour, disons que le vertige donc est passé et a laissé ensuite la place donc à l'acouphène. Et depuis ce temps, donc je vis avec donc ce bruit donc qui est désagréable. Bon ben en 2007, donc j'ai été rappelé donc à toujours à Paris où j'ai été donc opéré. Et pour essayer de corriger le problème de l'acouphène, on m'a installé une prothèse externe cette fois-ci, parce qu'il en avait déjà une à l'intérieur. Donc cette prothèse devrait émettre donc, un bruit, lui aussi une acouphène, pour masquer mon acouphène donc originel. Mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Je me suis retrouvé avec donc le premier acouphène et le second donc déçu.
Et qu'est-ce que vous voudriez poser comme question du coup, Justin?
Comme question pour maintenant. Bon, entre temps, un ami m'a fait savoir donc que certains appareils donc portables ou bien certains modes d'utilisation des appareils portables pourraient aider donc à résoudre le problème des acouphènes. Donc ma première question, c'est de connaître l'état de la recherche dans le domaine de la prise en charge des personnes vivant avec l'acouphène. La deuxième question, sont les traitements efficaces de l'acouphène dans le cas qui est le bien, donc consécutivement à une opération de l'autospongiose. Et troisième question et dernière, est-ce qu'effectivement donc, les téléphones portables pourrait jouer un rôle déterminant.
Alors, docteur Michel dit beaucoup de questions pour vous. D'abord, le lien en fait entre acouphène et vertige.
Ben, le lien, en fait, l'acouphène et le vertige viennent du même organe qui est le vestibule de l'oreille interne. Comme je l'ai dit, il y a deux parties. Partie audition, on le voit dans le cas de Justin d'ailleurs. La partie audition, le nerf auditif, malheureusement, a été atteint qui a besoin d'être opéré. Mais le partie vestibule, il reste là. Lui, il montre sa souffrance via l'acouphène et de temps en temps aussi via le vertige. Ça dépend des gens. Donc, la question qu'il pose est une question assez fréquente finalement, parce que les acouphènes, c'est très bien, c'est un problème de santé publique. Il y a énormément de gens qui ont des acouphènes. Et malheureusement, l'état de la recherche n'est pas terrible dans ce domaine-là. Il n'y a pas énormément de médicaments. Il a eu un médicament pendant des années qui était un ferme de placebo qui sert à rien. Actuellement, on ne sait que on peut pas traiter la cause de l'acouphène. On peut traiter le symptôme. On a des médicaments calmants en fait, qui est un peu le seul qui marche très bien. C'est un médicament qui s'appelle le Rivotril. Le reste, ça marche pas très bien.
Calmant en fait pour essayer d'oublier entre guillemets cet
acouphène. Voilà, pour atténuer les symptômes sans traiter la cause. Ça c'est, j'insiste. C'est un médicament qui expose un peu à une dépendance si on prend dans le temps, mais parfois dans des cas gênants, ça rend service aux patients, ça lui plaît. Parce que il faut dire que l'acouphène augmente la nuit, donc ça donne parfois des insomnies et d'autres complications.
Justement quand il y a pas de bruit. C'est
exactement,
ça. On les entend plus. Augmente. Donc en fait, vous êtes en train de nous dire que la recherche n'avance pas très vite
non,
dans ce domaine.
Non, on n'a pas
de traitement miraculeux.
On n'a pas de miracle. Et puis par rapport à l'histoire de traitement avec le
téléphone portable.
Le téléphone portable, en fait, le principe, si vous voulez, vous pouvez faire aussi avec des casques, en mettant avec un casque où vous mettez un bruit plus important que l'acouphène pour que votre corps n'entende pas. C'est le même principe, je pense. Via l'acouphène, il y a le téléphone portable, peut-être des programmes qui donnent des sons beaucoup plus importants que l'acouphène, à un point que le cerveau oublie l'acouphène. On essaye d'éduquer le cerveau à oublier l'acouphène. C'est un peu comme on éduque dans la douleur chronique. D'ailleurs, l'intérêt de traitement, parfois, c'est ça aussi. Un traitement qui arrête le symptôme peut arrêter le phénomène à terme, parce que le cerveau oublie le phénomène qui est l'acouphène.
C'est ça qu'on cherche à faire en fait en ce moment. Merci beaucoup Justin. Juste un mot quand même sur ces acouphènes, qu'on dise un mot en termes de prévention. Vous le dites dans votre livre, attention à la façon dont justement, pour tous les jeunes, mais pas que les jeunes, dont on écoute de la musique avec un casque, écouter beaucoup trop fort présente un danger justement de risque d'acouphènes et de déséquilibre et de sensations vertigineuses.
Tout à fait, la moitié des acouphènes, on ne sait pas quelle est la cause. Par contre, dans la deuxième moitié, on sait, c'est le problème de l'oreille interne. Et donc, à la tête de ces problèmes-là vient le traumatisme sonore, donc qui vient d'avoir écouté les boîtes de nuit. Il y en a beaucoup après un traumatisme aigu dans une boîte de nuit, on sort avec des acouphènes, et ça peut être aussi le traumatisme sonore chronique répété avec avec la musique ou avec d'autres choses.
Et nous, vous savez bien qu'à la radio, on travaille beaucoup avec des casques. Et depuis qu'on fait des émissions là-dessus, j'ai très fortement baissé le niveau de mon casque. Et pour me protéger mes oreilles. Et je suis effarée à chaque fois que je prends le casque de mes collègues dans les studios, du à quel point ils écoutent fort. Donc il y a quelque chose à faire là-dessus.
Donc c'est une maladie professionnelle.
Voilà, exactement. Merci beaucoup, Justin. On a Djibril qui nous appelle de Conakry en Guinée. Djibril, bonjour.
Bonjour Claire.
On vous écoute, vous êtes en direct, Djibril.
Bonjour docteur.
Bonjour.
Oui. Docteur, en fait, l'émission m'intéresse beaucoup car ça concerne la presque le vertige. Docteur, moi j'ai eu 3 fois la méningite dans mon enfance en Côte d'Ivoire. La dernière en 1998. Mais malheureusement, je n'ai pas eu de graves séquelles. Mais j'ai eu longtemps de violents maux de tête. J'ai passé depuis des années avec. Depuis des années, j'ai des lourdeurs dans mon crâne et j'ai parfois des vertiges.
Et vous voudriez bien savoir si justement si c'est dû aux méningites, docteur Michel Dib.
Oui, c'est dû à la méningite, c'est connu. De toute façon, les céphalées, les maux de tête après le méningite et les vertiges aussi. La grande question, Jibril, c'est toujours ce qu'on dit depuis le début de l'émission, savoir est-ce que vous faites des vrais vertiges ou des sensations vertigineuses. Est-ce que les choses tournent autour de vous ou vous avez l'impression juste d'être déséquilibré comme sur un bateau?
Bon, en fait, quand des fois je suis sur le sous-soleil et que je rentre à la maison, des fois quand je m'assois en me levant, des fois les choses tournent autour de moi, j'ai la lourdeur dans la tête. Et des fois, ça fait même que ça joue sur mon moral beaucoup. Même, ça fait que même mon étude, ça commence à jouer sur ça.
Ça, on a bien compris, Jibril, ça joue sur le moral, on est d'accord. Et la question, si vous voulez, est-ce que c'est les choses tournent autour de vous ou non?
Oui, les choses tournent autour de moi parce que quand je m'assois, des fois en me levant, une fois au debout, bon, je vois presque les choses en train de tourner autour de moi. Bon, je serai obligé de m'asseoir, sinon ça ne va pas.
Ok, bon, donc il y a l'oreille interne qui a été touchée, mais vous avez à la fois les deux, vous avez ce qu'on appelle les céphalées de tension musculaire, c'est-à-dire tous les muscles autour de votre tête et sont tendus, ça arrive dans les séquelles de la méningite, et ça c'est ce que vous appelez une lourdeur autour de ma tête, donc ça c'est une céphalée de tension musculaire, mais vous avez aussi votre oreille interne qui a été lésée, qui vous donne des vertiges de temps en temps, donc il faudra suivre pendant des mois, des années même, un traitement, comme on a dit, de vertige vrai, plus des myorelaxants, un traitement qui va consister à 3-4 médicaments pendant au moins 1 an ou 2 ans pour que vous puissiez sortir de cette histoire-là. Et vous pouvez espérer à terme, au bout de 2-3 ans, pouvoir arrêter votre traitement et aller un peu mieux par rapport à aujourd'hui. Aller beaucoup mieux par rapport à
c'est
aujourd'hui.
C'est ça. Donc, Jibril, il faut aller consulter. Docteur Michel Dib, justement, quand vous prescrivez ces médicaments sur plusieurs mois, plusieurs années, est-ce que les patients sont bien compliants? Est-ce qu'ils suivent leur traitement?
On y voit tous les 3 ou 6 mois pour la compliance. Ils sont compliants par la force des choses parce qu'ils vont mieux. Donc, du coup, comme.
Mais ils n'ont pas tendance à arrêter quand ils vont mieux, justement.
Non, vous avez vu l'histoire de Laure, par exemple. Laure, moi, je la suis depuis 2 ans et elle est contente chaque fois qu'il y a un renouvellement.
Ouais.
Et puis, en fait, moi, j'appelle ça la maladie, j'appelle ça comme un incendie. Il faudra à un moment donné éteindre l'incendie complètement avant de dire aux pompiers, vous pouvez partir. Donc, il faut que le traitement reste là jusqu'à éteindre les symptômes complètement. Quand tout s'arrête pendant 6 mois, on peut arrêter le traitement.
Je voudrais qu'on revienne sur les causes de ces vertiges. On en a vu, on en a évoqué plusieurs avec les différents auditeurs qu'on a eus. On a évoqué la méningite, il y a les otites aussi. Quelles sont les autres causes? Bouchons de cérumène, vous donnez ça?
Oui, c'est ça. On a parlé des causes graves, on a parlé des causes simples. Effectivement, bouchon de cérumène, ça peut donner ça. Aussi, ça peut être une otite. Une infection au niveau de l'oreille interne. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand vous avez un vrai vertige, les choses tournent autour de vous, la première chose à faire, c'est d'aller voir un ORL. Un médecin ORL, otorino, pour jeter un coup d'œil sur votre oreille, voir s'il n'y a pas d'otite, il n'y a pas de cause très simple à soigner.
Quelles sont les autres causes?
Les autres causes, vous avez ce qu'on appelle le vertige positionnel bénin. C'est l'accumulation de cristaux, de sable à l'intérieur de l'oreille interne qui donne des crises de vertige quand vous tournez la tête dans une position donnée. Vous avez aussi donc ce qu'on a parlé de traumatisme sonore. Vous avez ce qu'on appelle la névrite vestibulaire. C'est pratiquement plus que la moitié de causes de vertige.
C'est quoi cette névrite vestibulaire?
On suppose qu'il y a les médecins, ils ont raconté une histoire depuis des années, ils ont créé leur propre histoire, ils ont inventé une histoire qui dit qu'il y a un virus qui touche l'oreille interne. Je vous assure qu'on n'a jamais trouvé ce virus-là, mais en tout cas, on continue à raconter l'histoire. En tout cas, on sait que l'oreille interne va s'inflammer pour une raison que nous ignorons. Ça peut être un virus. Et cette infection, comme vous avez la grippe, ben ça va faire des acouphènes, des vertiges.
Et déséquilibré.
Déséquilibré, tout à fait. La différence par rapport aux autres causes, que ça va être guéri. En fait, ça va être un peu, c'est quelque chose qui nécessite du repos pendant les 15 premiers jours, ne pas bouger du tout, mais avec le temps guéri, comme la grippe peut guérir.
J'étais aussi frappée en préparant cette émission d'apprendre qu'il y avait des médicaments qui peuvent aussi agresser l'oreille interne, des antibiotiques.
Bah, c'est, d'ailleurs, ça a été, ils ont été beaucoup, l'usage a été limité. C'est les gentamicines, par exemple, la famille de mycines. Et il y a eu beaucoup, par exemple, qui ont été donnés à l'époque avec la tuberculose. Maintenant, on en donne moins. Même des médicaments simples et banals, comme l'aspirine, s'ils donnés à haute dose ou pendant longtemps, peuvent aussi toucher l'oreille interne. C'est ce qu'on voit le plus pratique, les antibiotiques et l'aspirine en général.
Et la quinine, utilisée pour les crises de palud?
Oui, s'il est donné à haute dose et pendant longtemps, s'il y a une sensibilité de certaines personnes.
Ça peut arriver. Donner, ouais. Comment réagir face à un vertige? Alors ça, c'est presque plus pour l'entourage, je dirais, ou pour la personne en question.
Ben, la première chose qu'il faut d'abord aller, si ça se répète, il faut aller voir l'ORL qui règle le problème. Il faut que, encore une fois, avoir une, utiliser le bon terme. Donc, est-ce que j'ai un vrai ou un faux vertige? Aller voir l'ORL et ensuite ne pas hésiter à aller voir derrière un neurologue ou un médecin généraliste quand les problèmes ne sont pas complètement réglés. Parce que je vous ai pas dit encore le pire, que vous avez plein de gens qui ont on a parlé de la phase chronique de vertige, c'est que le vertige ne tourne, les choses ne tournent plus autour de soi, ça tournait au départ et ensuite ça tourne plus et on est déséquilibré comme sur un bateau. C'est la grande majorité de patients qu'on voit, c'est pratiquement un patient sur deux qui vient pour des vertiges. Et il faut dire que chaque fois l'ORL leur dit vous n'avez plus rien à faire chez moi, tout est normal. Et pourtant, c'est la phase chronique de l'atteinte de l'oreille. Disons que vous avez, c'est ça la complexité aussi du sujet, vous avez des vertiges qui viennent de l'oreille interne, mais qui donnent plus d'anomalies sur les examens. Et ça, c'est le problème d'errance de diagnostic. Et encore ça, c'est la raison de ce livre-là, c'est d'expliquer aux gens que juste avec, en discutant pendant 10-15 minutes, vous pouvez définir la cause beaucoup mieux que parfois les examens.
On a au téléphone Adamou qui nous appelle de Niamey au Niger. Adamou, bonjour.
Bonjour Claire.
On vous écoute.
Ok. Bonjour docteur.
Oui, bonjour. Parlez bien près du téléphone Adamou.
Ok. La question que je m'ai donc posée, parce que ça fait pratiquement donc une année. Donc j'avais eu donc un début donc de vestige. Donc c'est la première fois donc que ça m'arrive. Et j'ai pris donc du tangani donc et puis subitement donc j'avais donc des sifflements donc dans l'oreille droite.
Et vous voudriez savoir s'il y a un remède justement sur ces questions de sifflement. Ces questions donc de sifflement et de bourdonnement, c'est la même histoire. Et ça démarre souvent par des vertiges, les deux sont...
Oui, parce que c'est le signe de souffrance de vestibule, si vous voulez. C'est les deux. Le vestibule, il a deux dysfonctionnements majeurs, le vertige et les acouphènes sont très liés. Et ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il a eu, pareil, un traitement qui était un placebo gentil. Il y a qu'un seul traitement qui, encore une fois, le Rivotril qui permet de calmer un peu les choses avec un risque, je répète, d'accoutumance si on le donne pendant longtemps. Et puis c'est tout quoi, il n'y a pas d'autre chose à faire.
Merci beaucoup Adamou, bon courage à vous. Quels sont les moyens de prévention? Alors pour ce qui est des acouphènes, on a très largement parlé de la question de ne pas écouter trop fort de la musique ou sous un casque. Quels sont les autres conseils de prévention que vous pouvez donner?
Il n'y a pas réellement de conseils de prévention en termes de, en dehors d'éviter le trauma sonore pour une raison simple. Quand vous regardez les causes de tout ça, c'est des causes aiguës et ça vient pas de la volonté de l'être humain. Ça vient un petit peu soit d'un virus, soit d'un vieillissement de l'oreille interne. Il y a aussi un élément très important, c'est la génétique. On voit souvent des familles où il y a un dysfonctionnement de l'oreille interne qui se transmet de génération en génération. Donc il n'y a pas réellement beaucoup d'actions de prévention en dehors de ne pas prendre des médicaments toxiques de l'oreille interne. Mais je pense que les médecins maîtrisent bien ça actuellement, on peut leur faire confiance. Et puis aussi éviter le traumatisme sonore. Et dans les cas où on a des baisses de tension ou des questions de baisse de glycémie, de sucre dans le sang, faire attention à ça. Quoi.
Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, que vous parlez dans votre livre, c'est le malaise vagal. Je voudrais vous lire un message qu'on a reçu de Anne qui dit « Mon compagnon a fait un malaise vagal il y a 10 jours. Sur le coup, on a eu très peur, car en plus il s'est fait mal en tombant. Il avait une douleur thoracique sur le côté gauche. Après une journée d'observation, un électrocardiogramme normal, on l'a laissé sortir de l'hôpital, mais le médecin lui a demandé de faire un test d'effort myocarde pour vérification. Pourquoi ce test? Quelle c'est en fait la pathologie qu'on cherche à écarter?
On cherche de dire, est-ce que simplement c'est un malaise banal, vagal, comme ça arrive souvent, ou c'est un malaise d'origine cardiaque? Parce que dans les deux cas, qu'est-ce que c'est un malaise vagal? Un malaise vagal, vous avez la tension du sang au niveau de la tête qui va baisser. Du coup, le cerveau se retrouve sans sang, sans oxygène. Donc, il déclenche un malaise lui-même pour vous obliger à être allongé. Comme ça, le sang lui arrive par position mécanique, si vous voulez. Et donc, ça peut arriver aussi si le corps est défaillant. Donc, ce qu'on cherche chez lui, c'est chercher une cause cardiaque, si vous voulez. Là, la réponse, elle est simple avec l'âge. Le malaise vagal, ça arrive beaucoup chez les jeunes. Quelqu'un, une personne âgée qui a 70 ans, avant de dire qu'il a un malaise vagal,
voilà, on va chercher justement une maladie cardiaque. Merci beaucoup, docteur Michel Dibin. Je rappelle que vous avez publié Vertige ou acouphène, distinguer pour agir. C'est un livre qui paraît aux éditions Josette Lyon. Et vous êtes venu avec 4 livres à faire gagner aux auditeurs. Rendez-vous pour cela sur la page Facebook de l'émission. Vous ajoutez votre commentaire et on procédera à un tirage au sort. Demain, avec Juan Gomez, on vous propose une émission spéciale sur l'épidémie d'Ebola. Vous savez que dimanche dernier, les 3 pays les plus touchés, Sierra Leone, Libéria et Guinée, se sont engagés à éradiquer le virus d'ici le 15 avril. Mais est-ce possible? On voit des cas redémarrer en Guinée. Un téléphone, le 33 1 84 22 75 75. Et bien sûr, les réseaux sociaux pour nous laisser des messages. À demain.